À l'occasion de la tournée Classe Rock, qui se déroulait à Vennes au Quai des Arts le 16 décembre dernier, Fréquence Mistral est allée à la rencontre des musiciens qui composaient le plateau. Au micro, on retrouve Lionel, chanteur et fondateur du groupe reggae marseillais Raspigaou, Joe Corbeau, pilier de la scène reggae marseillaise et leader du groupe Joe Corbeau et le Trident, et Sika et le J, jeune rappeur aixois lauréat du tremplin Classe Rock. Ils reviennent sur leur parcours, leurs influences musicales, et nous parlent des jeunes artistes qui les font vibrer en PACA. Sika et Léji nous partagent également leur expérience au sein du tremplin Classe Rock.
Donc Raspigaou, c'est un groupe de reggae ska qui est né dans le quartier du Panier à Marseille, qui est le vieux Marseille, en 97. Donc c'est un groupe qui a 27 ans d'existence aujourd'hui. Et je suis le seul membre fondateur qui reste dans le groupe. La formation a énormément changé autour de moi. Et ça a toujours été un groupe qui s'est axé autour d'un grand nombre de musiciens. Donc là, ce soir, on est 10 sur scène. Au plus, on a été 14. Au moins, on a été 8 ou 9. Mais c'est toujours resté un groupe, une grosse formation, quoi. On est 9 ce soir. Donc deux choristes, deux cuivres, et puis la formation classique, basse, batterie, guitare, clavier, et moi au chant.
Et est-ce que le parcours du groupe, vous pouvez nous détailler un petit peu quelle a été votre histoire ?
Donc Raspigaou, c'est un groupe qui a une histoire qui s'appuie sur le collectif, avant tout. Au début, en tout cas, on est une bande de copains, quoi. Et pendant 4 ans, on a vraiment tourné comme ça, on partait à l'aventure, quoi. On partait en tournée, on n'avait pas de concert de prévu, on les trouvait sur place. Donc on a sorti notre premier album, Showtime. Ensuite, l'équipe a changé, du coup on a fait notre deuxième album qui s'appelle Chien des Quais. Et musicalement, tous les albums et toute la musique a toujours suivi un petit peu l'état d'esprit du groupe. Donc au début, c'était la teuf, c'était la colo, la bande de potes. Donc le premier album, il a cette couleur. Le deuxième, on s'est mis un peu la pression en se disant, bon, on va essayer de faire quelque chose de plus propre, de plus concret, vraiment, de décider d'en vivre même. Chien des Quais, il a cette couleur, mais ça reste quand même un album qui est musicalement très dans le collectif aussi. Et puis ensuite, on a sorti Mauvaise Herbe. Là, l'équipe s'est drastiquement réduite et puis on a évolué encore musicalement. Puis il y a une grande pause de presque 7 ans et on a repris en 2013, donc avec une équipe qui a tenu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et où on a sorti un EP qui s'appelle Haut et Fort et l'album qui s'appelle Nouvelle Ère qu'on a sorti en 2019. Pile pendant le confinement, donc ça ne nous a pas vraiment fait du bien. L'équipe avec qui j'ai bossé là pendant presque 10 ans, les gars m'ont dit qu'ils étaient sur d'autres projets, ils avaient envie de faire autre chose, quoi. Donc ils ont quitté l'aventure. Et là, une grande partie des musiciens qu'il y a ce soir, c'est des nouveaux musiciens, quoi. C'est vraiment, pour certains, ça fait quelques mois qu'ils sont là, quoi.
On est encore un peu sur une phase aussi, où on rôde un peu cette nouvelle formation, ce nouveau collectif.
Oui, c'est ça, et bon, de toute façon... Il y a deux points importants dans la vie d'un groupe, c'est que pour qu'un groupe tienne dans la durée, ses membres vont changer, sinon ça ne marche pas. Et puis voilà, qu'on se laisse aller aux rencontres et aux envies du moment, donc c'est comme ça que la musique change tout le temps.
Et j'avais une question sur le nom du groupe Raspigaou, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça fait référence ?
Donc Raspigaou, c'est un mot inventé qui n'existe pas, qui est composé de deux mots. Le premier, c'est donc Spigaou. Spigaou, ça vient du provençal. En fait, avant, les paysans, ils appelaient un épi de blé. Un épi, c'était un espigue. Après la moisson, il y avait toujours des épis de blé qui restaient debout en bord de champ et qui mûrissaient sur pied. Et ceux-là, on les appelait les espigaou. Le mot s'est transformé avec le temps. De espigaou, c'est devenu spigaou. Aujourd'hui, c'est de l'orge sauvage qu'on trouve en français, on dit espillé. Et tu sais, les gamins, ils jouent aux fléchettes avec, ça reste collé au pull. Voilà, c'est ça, le spigaou. Chez nous, en tout cas, on dit que ça rentre dans les oreilles et que ça n'en sort pas. Donc, un peu comme notre son. Puis il y a eu le coup de l'épi de blé rebelle qui reste debout après la moisson, ça m'a plu aussi. Et donc, sur ce mot provençal, spigaou, moi j'ai rajouté ras. Ras qui est un mot beaucoup utilisé dans le reggae et dans la langue amharique, rasta, donc qui veut dire littéralement le roi. D'ailleurs, Rastafari, à la base, c'est pas un seul mot comme on le voit écrit, Rastafari en un seul mot, c'est ras tafari, c'est le roi tafari. Voilà, que j'ai pris ce mot ras que j'ai mis sur spigaou, quoi.
On parlait de musique reggae, justement. Pourquoi avoir choisi ce mode d'expression ? Qu'est-ce qui vous parlait tant dans le reggae pour pouvoir passer vos messages ?
Je suis venu au reggae très tard. Moi, je chante depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Je n'ai même pas souvenir de quand j'ai commencé à chanter, quoi. J'ai toujours voulu être chanteur, mais je suis passé par plein de styles, par les musiques noires, donc le blues, la funk, la soul. J'ai fait un peu de chanson française, j'étais ténor en chorale. Le reggae, c'est le style de musique qui m'a permis de concilier, en fait, le plus facilement l'expression vocale et l'expression écrite, en fait. D'ailleurs, sur le reggae, n'importe quel type de chant, tu mets un chanteur rock, ça marche, tu mets une chanteuse soul, ça marche. Le reggae, c'est un style qui, plus que tous les autres styles, accueille facilement tous les autres styles.
Et que ce soit en reggae ou dans d'autres esthétiques musicales, quelles ont été les grandes figures qui ont pu inspirer Raspigao et inspirer votre écriture, votre musique ?
En reggae, moi, ce qui m'a vraiment inspiré musicalement, évidemment, c'est Bob. Bob, quand on ne connaît pas vraiment la culture reggae, on a tendance à croire que c'est lui qui a inventé le reggae, pas du tout. Bien avant lui, il y a des gens qui ont mis le reggae en place. Bob, c'est celui qui a internationalisé le reggae, qui l'a fait découvrir au monde entier et qui en a fait vraiment une musique qui a flirté un petit peu avec les limites de la variété, quoi. Donc Bob, évidemment. Après, moi, j'ai eu pas mal de révélations vocales dans le reggae, notamment quand j'ai découvert des chanteurs comme Barrington Levy, qui a cette particularité de faire du scat. Donc moi, le jour où j'ai découvert ça, ça a été un peu une révélation pour moi. Pareil pour tout ce qui est les trios vocaux et les voix soul dans le reggae qui sont nés dans les années 70, comme Abyssinians, Israel Vibration, ou les Gladiators, ou les Twinkle Brothers, les Mighty Diamonds, et tous ces genres de chanteurs très soul, en fait. Après, à côté de ça, je fais de la musique, je compose de la musique, j'écoute beaucoup de musique, donc je m'inspire de beaucoup de choses, quoi. Dans beaucoup de styles différents, la liste serait trop longue ici.
On parlait justement de références du passé, et si on regarde un petit peu vers l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit en PACA ou plus largement, est-ce qu'il y a des artistes, des jeunes artistes qui vous inspirent également ?
Oui, après, c'est des rencontres, donc comme toute rencontre, ce genre d'inspiration, elles peuvent avoir un début et une fin aussi. Mais oui, il y a plein d'artistes que je trouve très intéressants, plein de jeunes qui sont là et qui sont la nouvelle génération, quoi, qui prennent un peu la relève de la composition, de la chanson. Donc pour te donner un nom, je vais te parler de deux artistes que j'ai croisés en Class Rock. Donc le premier, c'est un groupe que j'ai... Parce que moi, je travaille beaucoup avec Class Rock. Je travaille avec eux depuis des années. Et, je suis arrangeur des groupes qui sont lauréats. Donc j'ai travaillé avec des groupes Class Rock il y a 2 ans de ça, un groupe qui s'appelait La Marmite, qui est un jeune groupe de rap. La particularité, c'est qu'ils sont 8 chanteurs et un gars qui envoie les instrus sur scène. Ils ont une énergie totalement débordante, quoi. Voilà, donc c'était vraiment une rencontre très puissante, très forte en émotion, d'avoir 8 gars de entre 18 et 22 balais comme ça, qui bouillonnent d'énergie, d'envie, d'idées. C'était intense, quoi. Et puis il y a aussi Mali, donc, qui est ma fille, qui est une chanteuse de rap aussi. Depuis l'année dernière, elle a sorti son projet, un EP qui s'appelle « C'est qu'une étape ». Elle a fait le stage Class Rock et c'est quelque chose de toujours étonnant de voir un artiste se révéler, tu vois, et se découvrir dans son art, dans son chant, dans son écriture, dans sa composition, dans sa manière d'appréhender la scène. Et c'est toujours très intéressant et très riche de voir à quel point tu peux interagir avec cette personne ou pas, et jusqu'où ce que tu vas lui amener a un impact ou pas. C'est délicat, en fait. Tu peux pas venir te contenter de donner des conseils à quelqu'un, de lui dire « fais comme ça », quoi. C'est autant instructif pour toi en tant qu'arrangeur que pour la personne avec laquelle tu travailles, parce que tu es obligé de te remettre profondément en question par rapport à ces jeunes et à ce que tu leur amènes, quoi. Avant d'amener ton idée, ton expérience, il faut d'abord tâter le terrain, savoir où tu es et voir si ce que tu vas amener va correspondre au terrain musical qu'il y a déjà.
Question tout autre, on revient un peu sur le parcours de Raspigao et sur ce premier album Showtime en 1999. Dessus, il y avait un morceau très emblématique qui s'appelait Vitrol. Il y a ensuite eu Vitrol 2, Vitrol 3. Et au vu du contexte aussi dans lequel on est, au vu des engagements que vous avez eus par le passé, est-ce qu'on pourrait envisager un Vitrol 4 ?
Mais tout à fait, c'est même plus ou moins prévu parce que finalement, Vitrol 1, c'était très ciblé. Et puis Vitrol 2, moins, mais politiquement parlant, il se passait toujours des choses à Vitrol qui ont fait qu'on a fait le 2 peu de temps après. On a fait le 3 longtemps après. Et en fait, le 3, Vitrol 3, c'était un prétexte pour garder le même refrain, tout en venant parler d'autres choses, quoi, et des extrêmes, des politiques et des comportements sociaux extrêmes dans notre société, quoi. Et là, aujourd'hui... Vitrol 4 a plus que sa place, quoi. Surtout si on reste dans le même schéma, c'est-à-dire dans le même principe de garder le refrain, mais de venir par le biais de ce refrain qui est aujourd'hui connu pour être engagé et politiquement parlant, pour s'en servir pour pour dire haut et fort certaines choses, quoi.
Et pour terminer, voilà, là aujourd'hui vous êtes ici à Vennes, mais est-ce que vous allez avoir une actu ensuite, un album, un EP qui va sortir, une tournée qui va suivre ?
Oui, parce que c'est un peu le mouvement du groupe de toute façon. Après, on fonctionne différemment parce que en fait, le groupe a 27 ans, je suis le seul du début. Et la plupart des musiciens sont des jeunes, quoi. Ils sont là depuis quelques mois pour certains. Donc cette année, pour la première fois dans l'histoire du groupe, j'ai dit, écoutez, prenez les choses en main et appropriez-vous le projet, allez-y, composez. Déjà, il fallait qu'ils acceptent, qu'ils soient d'accord, parce que c'est pas évident de s'approprier un projet qui est pas le tien. Comme ça, qu'il y a un long passif. Il y a certains icônes qui étaient pas nés quand le groupe est né. Donc après, on rentre dans un schéma classique de développement d'un groupe. Composer, enregistrer, sortir un single avec un clip et être prêt pour l'été. Ouais, on est là-dedans.
Vous avez un parcours qui est extrêmement riche, extrêmement dense. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le raconter, ce parcours, revenir sur les grands moments marquants ?
Oh ben, les grands moments marquants, j'étais dans le rock, mais je m'intéressais aussi à beaucoup de musique du monde. Hein. Et en fait, j'ai découvert le reggae. J'ai découvert le reggae en voyant Bob Marley en concert en 77. Et à partir de là, petit à petit, j'ai commencé à plonger dans ce nouvel univers. Puisque à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'infos hein, pour avoir les morceaux, pour découvrir les artistes. Il fallait acheter les disques. Hein. Il n'y avait pas de radio libre, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, je commençais à me passionner, à devenir un vrai collectionneur de reggae. Et petit à petit, à commencer à composer des morceaux qui étaient influencés par ces riddims, par cette nouvelle musique que je découvrais. Et donc, là, j'ai créé mon premier groupe à ce moment-là, vraiment de reggae en 80, qui s'appelait Jazz Sagittarius. On a commencé à faire des dates et j'ai un moment aussi, par la suite, il y a eu une troupe de Rasta avec qui j'ai tourné un moment qui s'appelait Men in the Hill, qui m'ont beaucoup apporté parce que là, c'était vraiment des gars des Antilles qui étaient vraiment à fond dans cette musique qu'il fallait capter. Et puis, il était arrivé un peu le moment du retour, donc revenir à Marseille, dans ma ville, essayer d'amener un peu cette nouvelle culture grâce aux radios libres aussi, où j'ai commencé à faire des sound systems au niveau radiophonique et puis aussi après au niveau public, puisque j'ai commencé à rencontrer d'autres amoureux du reggae comme Moussuté, qu'on appelait Prince Tatou. Donc ensemble, on a créé le Massilia Sound System, la première bouture, on va dire, du Massilia Sound System en 84-85. Puis après, j'ai remonté d'autres formules comme Illimited Company. Là, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer aussi à Londres avec les musiciens de Linton Kwesi Johnson. Ma chanson en hommage à l'OM, j'aime l'OM, qui m'a donné un éclairage, on peut dire, un peu grand public à ce moment-là. Et voilà, et puis depuis, ça n'a jamais arrêté. Souvent, les groupes ont pris des noms différents, mais enfin, que ça soit avec des grands big bands, puisque à un moment, je travaillais quand même un peu comme nos amis de Raspi, avec une équipe complète de cuivre et tout. Et puis là, maintenant, on est revenu un peu plus, je dirais, aux fondamentaux, puisque là, maintenant, je travaille avec le Trident, ces trois musiciens qui font aussi partie de toutes mes histoires depuis plus de 15-20 ans, hein, avec le célèbre Rastairon au clavier, qui est un gars formidable, qui est aussi producteur, réalisateur, qui a réalisé aussi mes derniers albums, comme Le Jardin Paradoxal, par exemple. Puis, Rastairon, qui est aussi clavier avec Ayam. Puis, aussi le batteur très connu qui s'appelle Kilo, Loïc Vostrovski. Et mon fidèle bassiste, Badan, qui était là aussi sur toutes ces années, toutes ces aventures, avec des perpétuels changements, parce que moi, mes influences... on va dire, elles vont autant au début un petit peu de la revendication de cette identité marseillaise, et puis aussi tous mes voyages dans le monde entier, en Inde notamment, mes origines arméniennes, ma passion pour la culture éthiopienne par rapport au mouvement Rasta. Donc c'est tout ça que j'essaie d'exprimer dans ma musique et dans mes chansons.
Et alors, pourquoi cet alias Joe Corbeau ? Pourquoi ce nom ?
Ça, c'est une histoire aussi très ancienne, hein, puisque, on va dire Joe, parce que bon, mon prénom, c'est, en français, c'est Georges, Kevork en arménien, mais en Georges. Donc, quand j'étais jeune, on m'appelait Joe, c'était mon diminutif. Donc. Et puis alors, Corbeau, c'est une histoire assez particulière qui m'est arrivée justement au début, où j'étais avec cette troupe de saltimbanques d'Albert et sa fanfare. On partait comme ça à la campagne, un peu répéter, préparer des spectacles, et puis il y avait une nuit d'orage. orage un peu intense. Au petit matin, j'étais me promener pour voir les premiers rayons de soleil après l'orage, après la pluie. Puis je me marchais comme ça un peu. Puis le rayon de soleil a éclairé quelque chose qui m'a attiré. C'était une plume de corbeau qui me montrait qu'elle n'était pas si obscure que ça, qu'elle reflétait beaucoup de lumière. J'ai pris cette plume et il y a eu un autre éclat un peu plus loin. Et comme ça, je me suis retrouvé avec deux plumes de corbeau qui m'ont amené en fait jusqu'à un grand oiseau qui visiblement était peut-être foudroyé dans la nuit. Je me suis assis au pied de ce corbeau à méditer sur les choses de la vie et je ne sais pas pourquoi mon ami qui était là m'a dit « maintenant tu t'appelleras corbeau ».
Encore du côté sémantique, là vous tournez avec le trident, c'est une référence aussi à l'Antiquité, à Poséidon. Oui. Est-ce que ça faisait aussi référence à votre ancrage sur le littoral, à votre ancrage marseillais ?
Le trident, il y a deux choses. Il y a évidemment le côté Poséidon, puis le trident fait partie des armoiries de la ville. Mais quand même, à mon niveau personnel, même si je connais bien la présence du trident dans notre symbolique marseillaise, il y a aussi cette notion de mes voyages et de l'attachement particulier que j'ai pour la philosophie indienne avec le trident de Shiva qui à la fois représente le passé, le présent, l'avenir, la destruction des choses négatives pour le renouveau. Voilà. Donc il y a cette présence shivaïste qui est très importante pour moi aussi.
Vous portez un soin tout particulier à vos textes. Quels sont les musiciens, les écrivains, les poètes, peut-être aussi les toasters jamaïcains qui ont une influence sur votre parcours de compositeur, de conteur presque ?
Oui, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Bon, on va dire que c'est quand même au départ, dans mon enfance, il y avait la radio. Le côté conteur me venait un peu de ces émissions qu'on écoutait à la radio avec des conteurs qui venaient raconter des histoires illustrées de musique. Mais on va dire que le premier vraiment poète qui m'a touché, c'est Brassens. J'ai toujours mon grand frère, ma grande sœur aînée, qui allait à l'Alcazar, qui revenait en me disant oh, « on a vu ça, on a vu un nouveau ». C'était très nouveau, Brassens, c'est un peu révolutionnaire, un peu anarchiste. Disons, j'ai toujours apprécié bien là, quand même la bonne chanson française, les Léo Ferré, les Brel, les choses comme ça. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup aussi des groupes de rock français, comme les Chaussettes Noires, des trucs comme ça, qui n'étaient pas extraordinaires au niveau des paroles, parce que c'est souvent des reprises de rock américain. Je crois que c'est quand même venu petit à petit mon écriture, puisque j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais avec le groupe Elvis Platiné. Voilà. Notamment, je me souviendrai toujours d'une des chansons que je chante toujours, qui fait un de mes classiques, qui s'appelle Le Rasta de Mouropiane. En Mouropiane, c'est un quartier un peu vers l'Estac, un peu industriel, qui n'a pas particulièrement d'intérêt, à part le nombre d'êtres qui sonnent comme ça. Et j'étais avec un ami, un guitariste marseillais, c'est dans cette tournée, et tout le long, je lui parlais, et c'était au moment où je découvrais la culture jamaïcaine des Rastas. À la fois, nous parlions de Marseille, on parlait de la Jamaïque. Quand ils m'ont ramené chez moi, ils m'ont dit « Allez, salut, Rasta de Mouropiane !» J'ai dit « Ah, c'est incroyable, parce que là, d'un coup, il y a quelque chose de complètement improbable. Le Rasta jamaïcain, Mouropiane, un quartier de Marseille. » Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose sur un système d'écriture automatique. Et j'ai commencé à écrire la chanson d'un trait. En fait, tout ce qui me venait dans la tête de mes souvenirs d'enfance, de mes quartiers, des choses comme ça. Quand je me suis mis à chanter ces chansons, les gens entendaient que je parlais de quartier ou de choses qui n'avaient jamais été mis particulièrement en avant. Et je crois que c'est un peu ce qu'on appelle dans le reggae la basse culture, la culture de la base, la culture... Enfin, c'est ça qui m'a plu aussi beaucoup en Jamaïque. C'est ce côté populaire, c'est ce côté comment la musique peut aider à sortir du ghetto. Des centaines, des milliers peut-être même d'artistes qui sont sortis de cette petite île. Après, vous dire vraiment les artistes, évidemment Marley, Bob Marley, qui était pour moi plus qu'un chanteur, un prophète des temps modernes, on va dire. Et puis Burning Spear aussi. Alors lui, quand je l'ai vu en concert, c'est là où j'ai eu envie de monter un groupe, où je voyais vraiment comment sur scène ça fonctionnait, comment il y avait la basse, la batterie d'un côté, le clavier, la guitare. Je commençais à connaître un peu le fonctionnement de cette musique polyrythmique. Et à partir de là, l'inspiration est venue. Par exemple, je parle quasiment pas anglais. Bon. Donc j'entendais des chansons, et en fait je les aimais tellement que je me les chantais en inventant des paroles. Et après, en dehors du reggae, il y a aussi tout ce côté sound system, un peu qui a amené plus tard le rap, en fait, qu'on appelait à l'époque le rub-a-dub, avec des artistes comme U-Roy, par exemple, des gens comme Lee Perry, des gens qui m'ont énormément inspiré, autant dans l'attitude, au niveau de la manière de poser les mots sur les rythmes. Et puis voilà, après, maintenant, je suis devenu quelqu'un qui écrit beaucoup.
Vous avez ouvert la voie à des artistes comme Massia Sound System, comme les Raspigao, avec qui vous allez partager la scène ce soir. Ce sont aussi des groupes qui ont porté de forts engagements, qui étaient profondément ancrés sur le territoire phocéen. Est-ce que vous êtes fier de cet héritage, de l'évolution aussi de cette scène marseillaise ?
Je suis très fier parce que, évidemment, quand je suis revenu dans ma ville natale, c'était un peu le désert culturel. Donc, j'ai vraiment regroupé autour de moi beaucoup de gens. Et donc, c'était formidable. Il y avait aussi une envie de brassage à cette époque-là. On avait créé une association qui s'appelait Massilia Dub avec un fanzine qui s'appelait V. Et on mélangeait tout le monde, autant du raï que du rockabilly. Et on a essayé de briser un peu les frontières. Mais alors, ma plus grande fierté, quand même, c'est de l'évolution des musiciens. Parce qu'à cette époque-là, c'était très difficile de trouver des musiciens sur Marseille qui savaient vraiment bien jouer le reggae. Et donc, souvent, je formais de bons musiciens, mais qui connaissaient pas bien cette culture. Mais surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en 30 ans, il y a eu d'un coup une génération de musiciens formidables, et notamment de musiciens de Marseille qui, en fait, accompagnent des artistes jamaïcains. Donc, il y a eu vraiment une évolution absolument extraordinaire. Sans parler de tous les M6 avec des sound systems qui aujourd'hui fleurissent de partout, donc c'est formidable.
Ce soir, on est dans le contexte de la tournée Classe Rock. Dans ce contexte, on parlait un peu du passé, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des musiciens qui vous inspirent encore, des jeunes gens sur la nouvelle scène ?
Oui, par exemple, un garçon comme Toco Blas, que je trouve formidable au niveau de l'écriture, qui est un garçon qui mériterait d'être quand même plus connu au niveau national, et que les jeunes, peut-être, auraient besoin d'entendre aussi des messages positifs. Il y a une génération très intéressante qui n'arrête pas, finalement. C'est devenu maintenant un phénomène international. Et par exemple, depuis 10 ans, je suis invité régulièrement en République tchèque, à Prague, où il y a une scène, alors reggae, hip-hop, raga, absolument incroyable, de très haut niveau, avec un DJ qui s'appelle Selector Broldrick. C'est grâce à lui que je tourne là-bas avec ce DJ. Et je m'en aperçois que c'est aussi un état d'esprit particulier, un état d'esprit, je pense, assez positif quand même, avec ses paradoxes, mais qui permet d'avancer.
Pour terminer, là, vous avez sorti un EP cette année. Est-ce qu'il y aura un album derrière qui va suivre ?
Ah, mais je le souhaite du fond du cœur, parce que là, j'ai beaucoup de nouvelles chansons que personne n'a entendues, à part quelques amis. Donc, c'est vrai que je souhaite sortir cet album. Il faut trouver un peu les moyens, parce que quand même, ça coûte de l'argent de sortir un album, surtout si on veut le faire de bonnes conditions. Mais enfin, je croise les doigts pour pouvoir arriver avant la fin de l'année, on va dire 24. Je m'avance un peu, mais en tout cas, c'est mon vœu le plus cher.
Toujours jusqu'à ma victoire. Et même si je dois parier une pièce, moi, je sais pertinemment que dans 5 ans, j'ai ma Tesla. Le J, la
Moi, c'est LEJ, L-E-J-Y, avec mon frère Sika, S-Y-K-A. On est un petit groupe marseillais, enfin, plus Aix-en-Provence. On fait du rap, on essaye de toucher à plusieurs styles. La plupart du temps, on essaie de faire des trucs qui bougent pour faire un concert. Et puis, on a aussi une vibe un peu plus mélancolique de temps en temps. Donc, voilà.
Depuis combien de temps vous jouez ensemble ? Comment vous vous êtes rencontrés ?
Comment on s'est rencontrés ? Là, maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans. On s'est connus, lui et moi, quand on travaillait au service civique. Et justement, la première fois, moi, j'avais déjà enregistré un premier projet qui est sorti maintenant, que je l'avais fait écouter. Et il m'avait dit, ouais, franchement, le projet, il est incroyable. J'aimerais moi aussi trop faire de la musique et tout. Et je dis, mais vas-y, fais-toi plaisir. Et un jour, il m'envoie un message. Il me dit, j'achète une carte son, un micro. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à collaborer ensemble. On a un lien, on va dire, un peu hors du commun, même en dehors de la musique. Donc, franchement, ce qui fait que c'est incroyable.
Donc toi, Sika, ça faisait déjà beaucoup plus longtemps que tu étais dans l'univers musical, ouais. Que tu composais déjà.
Oui, la musique, ouais, ça fait un peu plus longtemps que j'en fais que par rapport à LEJ. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent sur mon côté, parce que forcément, je travaille, etc. Et les cours, ça ne suit pas forcément derrière. Mais lui, il a beaucoup plus de temps. Et je pense qu'en termes de durée, il est beaucoup plus actif que moi.
Oui, c'est ça. Ouais. En fait, quand j'ai commencé, ça faisait déjà un bail que je voulais toucher à la musique. Je m'intéressais beaucoup à ce qui se passe derrière. Donc la création d'un album, la création d'un son, de l'imagerie, tout ça. Et un jour, j'ai passé le pas, il m'a aidé. J'ai fait plein de sons. Et puis avec le temps, j'en fais beaucoup plus que lui à long terme. Mais comme il a dit, j'ai plus de temps en fait, c'est tout.
Et là, votre projet Sika et LEJ, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus en détail, dire quel était votre processus de création, dans quelle esthétique il s'inscrit ?
Ça dépend. Souvent, on s'envoie une prod quand on est sur YouTube ou quoi. On se voit, il vient chez moi, on fait de la musique. Ça va super vite quand on est tous les deux, parce qu'on se donne plein d'idées. Deux cerveaux, ça va toujours plus vite. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on procède niveau son, niveau musique.
On a tous les deux une patte très différente sur la musique. Lui, il a une vision beaucoup plus mélancolique comparé à moi. J'ai toujours été très joyeux, très expressif. Il a vraiment une écriture qui est beaucoup plus intimiste et beaucoup plus vraiment mélancolique. Ça a donné un autre goût même à la musique, à notre univers en fait, tout simplement. Et ce qui fait que forcément, les sons matchent parfaitement, on trouve un peu de tout.
Même dans les sons les plus joyeux qu'on fait, j'essaie quand même de rajouter une patte mélancolique, une certaine retenue. Donc je suis dans l'entre-deux quand on est tous les deux et ça matche super bien.
Et vos inspirations musicales, quelles sont-elles ?
Moi, c'est toute la nouvelle génération qui arrive de rappeurs, tout ça. Ce qui se faisait 2015, 2016, tout ça. Les SCH, Nekfeu, tout ça. Et voilà, c'est beaucoup plus ce qui est récent, c'est beaucoup plus électro, en fait différent du rap qu'on appelle mainstream.
Moi j'ai eu beaucoup d'influence, même étant très jeune, j'ai toujours écouté vraiment du rap, que ça soit les anciens, c'est-à-dire Rof, Supreme NTM, IAM, etc., etc. Ça a toujours été vraiment les anciens qui m'ont inspiré étant plus jeune. Maintenant, je reste sur une vague avec des artistes plus type Anas, Nino, etc., Niax. Forcément, ouais, je garde cette patte plus mainstream, comme il disait justement le J, mais j'ai toujours gardé aussi cette écriture de l'ancienne génération.
Ce soir, vous êtes là dans le cadre de la tournée Classe au Rock, donc qui fait suite au tremplin Classe au Rock, dont vous avez été lauréat parmi d'autres groupes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours au sein du tremplin ?
En fait, le parcours, c'était plein d'opportunités, ce qui nous a permis de faire nos premiers concerts, tout ça. Et ça a permis aussi de tester les groupes, parce que quand on est dans Classe au Rock, on fait une semaine tous ensemble dans la même espèce de château, on va dire. Et le truc, c'est que ça devient assez difficile pour certains groupes qui n'ont pas l'habitude de passer tout leur temps ensemble, en fait. Ça, c'était vraiment simple pour nous parce qu'en fait, on se voyait déjà en dehors de la musique tous les jours. Donc ça n'a pas changé grand-chose, ça a juste renforcé nos liens plus qu'autre chose. C'est une bonne expérience, ça rapporte beaucoup d'opportunités, beaucoup de contacts et de nouvelles visions sur notre musique, sur le milieu surtout.
Je rajouterais même aussi de la collaboration parce que forcément, on trouve de tout. On a du rock, on a du métal, on a vraiment des trucs très spécifiques à chacun. Mais ça nous permet justement de piocher un peu des idées là où justement on devrait en prendre. Je pense à un jour spécifique, ça je le dis à chaque fois, mais ce jour-là, c'était sur un jour d'enregistrement et ça a été un jour, on va dire, assez difficile parce que justement, lui, il n'arrivait pas trop à enregistrer ce jour-là. Alors que moi, justement, ça a été très fluide. Et au bout d'un moment, on a commencé à se prendre un peu la tête. Mais bon, comme on a ce lien, on va dire, même en dehors de la musique, on s'est dit, bon, écoute, 15 minutes chacun de son côté et après on revient, on reprend chacun nos activités. C'est ce qui fait la beauté de notre relation de frère de cœur.
On a tous besoin de notre intimité et moi qui suis beaucoup plus seul en général, des fois ça fait un peu la goutte d'eau. En fait, c'est comme des embrouilles de frères et sœurs. Quand ils grandissent ensemble, ils s'embrouillent et puis plus ils grandissent et plus ils s'apprécient et c'est à peu près la même chose.
Et là, quand vous avez décidé de participer à ce tremplin, comment vous en avez entendu parler ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous y inscrire ?
On était déjà en contact avec la mission locale de notre ville, donc Aix-en-Provence. Et en fait, on avait fait plusieurs lives où on parlait de notre musique. Et eux, ils étaient très rapprochés de Classe Rock et de l'association Exki. Moi, j'ai fait un stage chez eux, donc c'était tout naturel, en fait. On a appris qu'il se passait ça, qu'il y avait un accompagnement musical. Donc on s'est dit, ça va nous permettre de faire des concerts. Et puis, quand on est en solo, parce qu'à la base, on est des artistes solo, on va pouvoir mieux appréhender nos scènes plus tard. On va être beaucoup plus à l'aise, même si chacun va être sur les scènes de l'autre, forcément. Ça va être beaucoup plus simple et fluide pour nous. Parce que si on débarque tout seul sur la scène, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'imprévus. Et quand on est à deux, forcément, on a une épaule sur laquelle s'épauler. Voilà.
Ouais, justement, ouais, je crois que c'est même à l'époque, c'est lui qui m'en avait parlé. C'est justement le J qui m'en avait parlé. Vraiment, j'ai même pas hésité. J'ai même limite perdu mon ancien emploi, justement, par rapport à ça.
En fait, c'est des occasions qui se présentent pas souvent. Et là, c'était tous les ans, et peut-être que l'année prochaine, on ne pouvait pas, niveau timing, tout ça. Donc, on a décidé de sauter le pas, et puis, en vrai, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Tous les sons qu'on avait faits, c'est des sons qui sont espacés de plusieurs mois, parce qu'en fait, on est des artistes solo. Donc, dès qu'on fait une nouvelle chanson, c'est peut-être une tous les mois, sauf qu'il en faut une dizaine pour faire un concert, à peu près. On s'est inscrit, on a été choisi, il nous fallait un certain nombre de sons, et en fait, on les a faits, on n'avait que 3 sons, il en fallait au moins 6-7 pour le concert. Et du coup, on a charbonné pendant plusieurs semaines pour aboutir à un set presque parfait. Mais c'était pas facile, c'était notre première scène aussi, quand on a fait les auditions. Mais ça s'est bien passé. Chaque scène, il y a de nouvelles choses qu'on apprend à gérer, tout ça. Donc voilà.
Là, c'est la première fois dans les Hautes-Alpes ?
C'est notre deuxième fois, c'est ça ? Ouais. Deuxième fois, ouais. On avait fait un festival à Embrun. Et franchement, c'était cool. Ouais. On a très très bien été reçus. Puis Embrun, c'est magnifique, nous on aime bien.
Vous encourageriez d'autres jeunes artistes à s'inscrire au tremplin donc, et à suivre un peu le parcours que vous avez pu avoir durant cette année ?
Totalement, ouais, je pense même, justement, je les incite même dès maintenant à s'inscrire. C'est le moment, justement, d'oser faire passer sa musique à un autre level, dans le sens où il y a une marge de progression tellement énorme avec le tremplin. Ça n'a même plus rien à voir avec notre premier concert. Ce qui fait qu'on arrive à gérer même les situations les plus compliquées, on arrive justement à les gérer, tout simplement.
Par exemple, truc tout bête, mais il y a un moment où on oublie deux phrases. Concert, ça se ressent pas au niveau du public, jamais même, parce que les gens ils sont dans le mood, ils sont dans le concert. Mais nous forcément en tant qu'artiste, on a l'œil dessus. Donc quand ça nous arrive, quand moi par exemple ça peut m'arriver, j'ai oublié peut-être deux phrases, ben lui il va faire la deuxième ou la fin de la deuxième pour me caler, pour que je sois sûr que c'est ça la suite et que j'ai pas sauté des lignes. C'est plus des petits imprévus comme ça, ou alors peut-être des crashs d'ordinateur en concert, ça nous est déjà arrivé. Lui comme c'est son PC, il connaît par cœur. Donc on a mis un truc instinctif sans se le dire que lui, il réglait le problème et que moi j'essayais de garder la foule avec moi même si le micro il marche plus. Donc ouais, c'est beaucoup d'improvisation et faut s'attendre à tous les problèmes techniques.
Et pour finir, quels sont vos projets pour la suite ?
Moi personnellement, je prépare un EP pour cette fin d'année qui sera bientôt fini. Je pense que ça sortira vers le 30, un truc comme ça. Et une mixtape début février. Donc on prépare nos projets solo, chacun de notre côté, mais il y a toujours la patte de l'autre dans chaque projet, même s'il est très 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 différent.
Ouais, c'est à peu près pareil pour moi, mis à part que du coup, moi, je suis en train d'attaquer justement mon deuxième projet, qui devrait sortir début 2024, quelque chose comme janvier. Comme il disait justement le J, chacun a la patte de l'autre quelque part sur le projet, donc forcément c'est très intéressant, ça ramène justement ce côté, soit lui sur mon projet mélancolique, ou soit à l'inverse, moi, quelque chose de plus joyeux sur son projet, donc voilà.